Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, nous allons ouvrir notre Bible dans le Nouveau Testament, si vous voulez bien, on va prendre dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10. Alors j'aimerais dire ceci, c'est que ce chapitre 10, c'est un élément charnière dans ce livre d'histoire qui relate tout simplement la constitution ou les premiers actes de l'Église primitive. Et ce chapitre 10 est d'une importance capitale, et je vais vous expliquer pourquoi, nous allons le voir ensemble, pour l'histoire à venir du christianisme. Les choses ont été faites, les choses ont été dites, Jésus avait mandaté ses disciples d'aller par tout le monde, et il y a beaucoup d'événements qui se passent dans ce livre des actions des apôtres, on peut le traduire de cette manière, parce que la question qui se pose au chapitre, c'est une charnière en quelque sorte. Est-ce que la foi en Dieu ou le service de Dieu, c'est l'exclusivité des Juifs uniquement, ou est-ce que véritablement, les choses vont s'étendre au monde entier, l'évangile que Jésus est venu apporter, doit-il rester uniquement dans ce cadre tout à fait particulier de ce peuple élu par Dieu que sont les Juifs avec leur religion, le judaïsme, ou est-ce qu'à partir de ce moment-là, Dieu va faire que son salut devienne universel? C'est ça la situation. Et s'étendre au monde païen. Les Juifs d'un côté, les païens ou les gentils, c'est comme ça qu'on les appelle, de l'autre côté. Je voudrais quand même souligner une chose, c'est que ce qui est dit dans ce chapitre, on va pas le lire en entier, mais c'est un véritable tsunami. Vous savez ce que c'est qu'un tsunami, hein? Un raz-de-marée. Parce que ça va être l'occasion d'une explosion de joie, d'un souffle extraordinaire, de voir ces païens rentrer dans la foi et vivre la grâce de Dieu. Et d'un autre côté, ça va être véritablement quelque chose de, voire même un scandale pour les Juifs. Alors, ce qui était vrai hier, il y a 2000 ans, ça peut être vrai aussi pour nous. Dans ce sens que ce n'est pas seulement le monde protestant, le monde évangélique, ce que nous pouvons représenter, nous ici, dans nos églises, à la fois de Saint-Nazaire et de Redon, en pensant que nous sommes les seuls à détenir la vérité. C'était bien ce que pensaient les Juifs à l'époque. Nous sommes les seuls, vraiment les seuls, les meilleurs, les plus beaux. Alors on va voir ça, et la réponse, elle est dans ce chapitre 10. C'est la réponse à la volonté de Dieu, c'est la réponse de ce que Dieu va exprimer, ce qu'il entend par cette universalité du salut. Alors c'est une nouvelle aventure, oui, qui va prendre corps en quelque sorte, qui est proposée, à la conscience de tout homme craignant Dieu. C'est pas seulement quelques-uns qui seraient l'élite du christianisme, et c'est résumé par une parole de l'apôtre Paul. Vous savez que Paul c'était un homme extrêmement zélé dans le judaïsme, quelqu'un qui véritablement, avait ça au fond de ses veines, dans son sang, les Juifs, les Juifs, les Juifs. Et il écrira dans l'Épître aux Romains, il dira ceci: accueillez celui qui est faible dans la foi, et il ajoute, ne discutez pas les opinions. Alors on va ouvrir notre chapitre en lisant finalement quelques versets. Actes chapitre 10, verset 9 jusqu'au verset 15. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, les émissaires qui sont envoyés, l'apôtre Pierre monta sur le toit vers la sixième heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la deuxième fois, la voix se fit encore entendre à lui, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à trois fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. On a compris, hein, ce que ça veut dire. On peut dire que ce sont les interdictions judaïques renversées. Je vous ai parlé de tsunami, c'est le monde à l'envers, hein. Les choses établies depuis des siècles et des siècles, et d'un seul coup, tout bascule. Curieux. Toutes ces ordonnances, tout ce labyrinthe d'ordonnances rituelles de la loi, Dieu va exprimer sa volonté en ce qui les concerne. C'est une révolution morale. C'est une révolution mentale pour les Juifs. C'est une révolution culturelle. Et au chapitre, au verset 28, il est ajouté ceci, je vous le dis. Pierre, quand il va arriver dans la maison des païens, la maison de Cornèle, il va dire ceci, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif. Quelle défense? De se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Jamais un juif ne serait rentré dans la maison d'un païen. Encore moins d'un romain. Et pour cause. Alors, il est interdit, il est défendu, mais Dieu m'a appris. Et quand c'est Pierre qui le dit, ça vaut la peine quand même de l'entendre. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Voilà, nous avons le corps même de notre méditation ce matin. Voici, en quelque sorte, en résumé brièvement, le monde ordonné, le monde légalisé, le monde légal du judaïsme au temps de Jésus, et autant qu'on remonte jusqu'à la loi de Moïse, je peux vous dire qu'il y en a eu du temps qui a passé, où véritablement nous pouvons dire que l'âme juive a été moulée, a été façonnée, a été scellée dans cette conception de choses. Et quand on regarde le livre de Lévitique, un livre difficile, hein, ne pas conseiller à des gens qui ouvrent la Bible pour la première fois, hein, on s'aperçoit que les ordonnances se multiplient les unes après les autres dans tellement de domaines. Sur l'hygiène corporelle, sur la criminalité, sur la manière de finalement de vivre en société, sur le sabbat, sur ceci, sur cela, dans toutes sortes de choses. Alors, ça subsistait jusqu'à Jésus, on peut dire. Ça subsiste encore, hein. Dans le monde juif d'alors. Si un jour vous allez en Israël, et particulièrement à Jérusalem, nous en avons fait l'expérience, et même assister à un repas de sabbat dans le restaurant où nous étions, c'était réservé uniquement, normalement, aux Israélites, mais nous avons pu y rentrer. Et de partager le repas avec les autres, c'est vous ouvrez vos yeux, vous ouvrez vos oreilles, et vous regardez tout autour de vous, et... Ben, on se retrouve quand même dans un autre monde, hein, dont on n'a pas l'habitude. Hein. C'est une expérience unique que nous avons faite. Et ça se subsiste, ça se maintient encore aujourd'hui. Alors, on peut parler véritablement, lorsque nous lisons ces livres, le Lévitique en particulier, de la hiérarchisation des ordonnances de la loi. Voilà, ça va du plus petit commandement jusqu'au plus grand, etc., en fonction naturellement, eh bien, de différents régimes, de différentes catégories de choses. Et c'est un système de castres religieuses. Voilà, il y a naturellement, eh bien, ceux qui officient, ceux qui ceci et cela, et puis la place est également du père de famille, hein, qui est très important. Voilà, et c'est une Les choses sont bien ordonnées, on peut dire, hein, bien classées, c'est, y a rien qui dépasse. Hein. Alors, dans cette hiérarchisation de cette société religieuse et appuyée sur la loi de Moïse, eh bien, il y avait d'abord les hommes. Voilà. Les hommes, l'homme, hein, c'est, voilà. Alors après, ce sont les catégories, hein. Il y avait les lévites, il y avait les sacrificateurs, et puis il y avait toutes sortes de choses. Et du temps de Jésus, il y avait des castes particulières telles que les sadducéens, avec une notion, une conception tout à fait particulière. Il y avait aussi les pharisiens, et on en reparlera tout à l'heure parce que c'est intéressant. Il y a les hommes. Après, il y a les étrangers. D'ailleurs, dans le temple, il y avait le parvis des étrangers, hein, le parvis des païens. Alors, les étrangers, il y a les esclaves aussi. Et puis, il y a les pauvres. Et puis, il y a les bâtards. Excusez-moi, mais c'est quand même le mot qui est quand même exprimé. S'il n'est pas dit comme ça, c'est quand même ça. Hein. Bâtards en raison de certaines infirmités ou certaines ascendances. Enfin, il y a les atypiques, ceux, vous savez, qui sont un petit peu les marginaux. Alors, tout cela, naturellement. En fonction de la hiérarchisation, il y a naturellement toute une classification de savoir s'ils sont purs ou impurs, comme ce qui est décrit par rapport aux animaux, les animaux purs et les animaux impurs, ce que l'on peut manger et ce qu'on ne peut pas manger, avec naturellement, eh bien, lorsqu'il y a sacrifice, il faut que ça soit cachère. Enfin, vous, c'est un langage un petit peu particulier pour nous, mais... Donc, ce sont des exclus. Pour plus vous allez finalement en descendant, plus il y a une notion d'exclusion, on ne touche pas, parce qu'on va devenir nous-mêmes impurs. Alors on comprend le pharisien du temple, lorsqu'il vient dire une prière qui ne dit rien du tout, d'ailleurs qui ne veut rien dire, il dira avec beaucoup de sincérité, mais fier d'être, « Je te loue, Père, de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Ah ouais, moi je suis quand même à regarder finalement ceux qui sont forcément en dessous, pas au-dessus, hein, c'est pas possible. Mais je ne suis pas comme eux. Hein, parce que ils sont adultères, ils sont menteurs, ils sont ravisseurs. Il va sortir tout ça, hein, mais il le fait avec une bonne conscience, parce qu'il est juif, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre chose. C'est comme ça que les choses sont. Et il exprime la pureté selon la loi, dont lui-même, avec beaucoup de méticulosité, beaucoup de scrupulosité, jusqu'à des offrandes de la dîme, de la nette, du cumin, de la menthe, etc., etc., en oubliant la miséricorde et la justice. Alors, Jésus se présente comme un révolutionnaire. Ouais, c'est quelque chose qui renverse, et le mot n'est pas trop fort, qui explose tout ce système, l'ordre établi. Et je vais vous donner quelques exemples, parce que quand on fait des comparaisons, on s'aperçoit qu'on passe sur des petits détails, mais qui montrent bien que quand Jésus est venu, et nous en sommes tout à fait conscients, Jésus est venu pour faire la volonté de Dieu. C'est un choc culturel pour les Juifs, parce que Jésus mettait ses pieds et ses mains où ce qui était considéré comme interdit. Et quelques exemples. Vous savez qu'un beau jour, Jésus se laisse toucher par une femme de mauvaise vie. Pouah ! Quelle horreur ! Et pourtant, il se laisse toucher. Vous connaissez l'histoire. Cette femme qui va rentrer d'une manière impromptue dans la maison de Simon le pharisien. En plus, ça se passe dans un endroit où là, il y a témoin. Hein, et qui va, courtisane, elle va défaire ses cheveux et elle va se mettre aux pieds de Jésus. Et elle va pas pleurer d'une manière hypocrite, elle va pleurer profondément. Et elle va essuyer de ses larmes avec ses cheveux les pieds de Jésus. Ce qui fera dire à Simon, il dira en lui-même, mais comme Jésus connaît tout, ça a été écrit aussi. Hein. Et il dira, mais s'il savait de quelle espèce est cette femme, il se laisserait pas approcher. Donc, si Jésus était prophète, il n'est pas rien du tout, hein, finalement, parce qu'il devrait savoir. Mais Jésus savait qui était cette femme. Et il s'est laissé mouiller les pieds des larmes de cette femme et essuyer tout simplement avec ses cheveux. Un lépreux a touché et qui est guéri. Parce que Jésus, lui, normalement, n'avait pas le droit de toucher un homme comme ça. C'est très dangereux. Et on comprend pour différentes raisons. C'était pas seulement par le fait de la maladie, mais c'était par le fait aussi de la loi de Moïse. Un lépreux, la lèpre, c'est l'image du péché. Et ce qui se passe, c'est que il le touche et il est guéri. Il y a quand même quelque chose qui est renversant, parce qu'encore, il n'aurait pas été guéri. Mais là, il est guéri. Guéri de sa lèpre. Il y a quand même un signe. Jésus mange avec des publicains, imaginez-vous. Manger dans la maison d'un pharisien. On comprend, c'est tout à fait dans la ligne. Mais avec un publicain. Un publicain, c'est un juif, c'est vrai, mais c'est un juif de mauvaise vie. Et quand on est dans la maison d'un publicain, on doit certainement entendre des histoires grivoises. On doit certainement, eh bien là, vivre d'une manière qui est un petit peu à la débauche. Et puis même la vaisselle dans laquelle on mange, et s'il y a vaisselle, est-ce qu'elle a été lavée selon la manière cachère ? Est-ce qu'elle a été faite comme il fallait, etc., etc. Alors on ne comprend pas que Jésus fasse des choses comme ça, il se prête à des choses comme ça. Et puis écoutez, Jésus va pousser les choses quand même pas mal, parce qu'il va choisir parmi ses disciples, eh bien, un Matthieu, Matthieu Lévi, un péager, un homme, en tous les cas, qui était certainement pas très proche du temple ou de la synagogue. Il va même enfreindre l'observance du sabbat, guérir de ci, de là, un jour de sabbat. On dirait que Jésus le fait exprès, vous vous rendez compte? Non, il ne fait pas exprès parce qu'il y a un besoin. Il y a là une attente d'un misérable ou d'une misérable et qui a besoin d'être guéri au moment où Jésus va la rencontrer. Il ne va pas lui dire, eh bien, tu reviendras mardi prochain hein, pour ça. Hein. Ce que, justement, susurrent les rabbins en disant, mais comment se fait-il? Allez vous faire guérir un autre jour, mais pas le jour du sabbat. Et Jésus guérit le jour du sabbat. Il permettra même à ses disciples d'aller manger, prendre des épis de blé et les manger un jour de sabbat. Parce que manger, c'est une chose, mais prendre un épi un épi de blé, le prendre, c'est travailler. Hein. Vous travaillez. Et puis, sortir Jésus hors du territoire d'Israël pour aller dans le pays des païens. Il va guérir un Gadarénien qui se trouve par là. Il va faire ceci et cela. Il va aller dans la région de Tyr et de Sidon. Et puis il sort, hein, parce que normalement c'est autre chose. Il va aller se promener un petit peu dans ces territoires païens. À un moment donné, il va même louer, figurez-vous, un centenier romain qui a plus de foi que les fils d'Israël. Alors là, ça leur fait dresser les cheveux sur la tête. Heureusement qu'ils ont un chapeau. Hein. Ils ont la kippa. Hein. Ah oui. C'est aussi des choses qui sont données dans l'Évangile. Mais si Jésus est véritablement le Fils de Dieu, s'il est le Messie d'Israël, comment se peut-il qu'il se permette? Comment se fait-il qu'il se permette de telles choses, de telles libertés? Il a plus de foi, vous savez le Romain, que même les fils d'Israël. Il parle à un autre moment, raconté par l'Évangile de Jean, à une métissée samaritaine. Ah oui, ce sont des matinées, vous comprenez, ils sont ni juifs, ils sont pas, on ne sait pas d'où ils viennent. Et puis en plus, elle a une profession, enfin si c'est pas une profession, en tous les cas c'est un état de vie, qui là n'est certainement pas recommandable. En sachant, et la Bible le dit, que depuis toujours, les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. Et c'est écrit. Et pourtant Jésus le fait quand même. Il y va. Et cette femme aura même la primeur d'entendre et de confesser elle-même parce qu'elle l'a compris. Ne serait-ce pas le Messie, le Christ, pour sauver le monde, qui est venu pour sauver les hommes. Jésus ira aussi mandater ses disciples après lui à aller jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi faire? Pour faire du tourisme? Non, pour la conversion des païens. Allez partout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création, dans le temps et dans l'espace, et vous verrez que vous ferez des miracles encore plus grands que je n'ai fait. Et c'est ce qui se passe. On s'aperçoit que tout cela, eh bien, ça prend des proportions et seulement ça, hein, je voudrais quand même le signaler, on comprend que Jésus a été crucifié par les Juifs. Ah, ils ne le supportaient plus, hein, ça dépassait toute mesure. Hein. Ou encore Jésus, osant braver l'établissement, on peut dire ça comme ça, et le lobby mercantile du temple. Vous vous rendez compte? Mais le temple, il fonctionne avec, finalement, eh bien là, des vendeurs. Il fonctionne avec des changeurs de monnaie, puisque les juifs du monde entier viennent, il faut bien leur donner quelque chose. Mais le temple n'est plus le temple. Le temple, c'est un supermarché aujourd'hui. Alors, Jésus va venir et vous savez ce qu'il a fait. Et combien d'autres interdits abattus par Jésus. Ce matin, écoutez, je ne vous dis rien d'autre que ce que l'Évangile dit. Hein. J'ai pas inventé, je suis pas en train de modifier les règles du jeu et de la foi. Non, c'est parce qu'on l'a dans la Bible. C'est une lecture, c'est pas une interprétation. Nous l'avons les uns et les autres et nous le lisons. Jésus fait la volonté de Dieu en faisant tout cela. Jésus a fait le contraire attendu. Parce que si nous lisons simplement, et je le reprends pour mémoire, dans l'évangile de Luc et au chapitre 14 et au verset 21-23, il est simplement donné ces choses. Vous savez, dans cette fameuse parabole des noces, le festin des noces, hein, il nous est dit que le serviteur de retour remporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » C'est-à-dire tout ce que nous avons cité tout à l'heure dans la hiérarchisation de la société. Voilà, les bas tombés, les laissés pour compte, tout cela. Hein. Le serviteur dit, « Maître, mais ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Eh bien maintenant, va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, eh bien contrains-les d'entrer. » Afin que ma maison soit remplie, vous rendez compte le remplissage. Eh oui, tout ça c'est en pleine conformité. Hein. Ah oui, on était habitué à ce que véritablement, avant de rentrer dans le temple ou dans une synagogue, véritablement on ait fait sa toilette, on ait fait tout ce qu'il fallait, et pas une toilette seulement d'hygiène humaine, mais une toilette, on pourrait dire, à caractère spirituel, dans la conscience, etc., etc. Et les Juifs, quand ils rentraient du monde, quand ils rentraient de la rue, quand ils rentraient, pourtant c'était la ville de Jérusalem, ils se lavaient je ne sais pas combien de fois les mains. D'ailleurs, ça fera l'objet d'une polémique entre les disciples qui se lavent les mains, qui mangent sans se laver les mains, et puis les pharisiens qui disent, mais regarde un peu comment ils sont tes disciples. Tu peux pas avec des disciples comme ça, et toi, Seigneur, tu dois faire certainement la même chose. C'est qu'une contestation permanente. Hein. Alors, en fait, à travers tout ce que nous lisons, c'est que Jésus ouvre la porte et invite les rejetés et les indésirables à la table au banquier de Dieu. C'est pour ça que j'ai voulu citer cette parabole du banquet des noces. Oui, il les invite à rentrer, tout simplement. Et je l'ai déjà dit dans une fois précédente, il y a cette parole, parce que je crois qu'il faut appuyer notre réflexion ce matin sur des textes bibliques. Et il est dit ceci, « L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne. » Eh bien, un festin de mets succulents, un festin de vieux vins, de mets succulents pleins de moelle, de vins vieux clarifiés. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, voile d'ignorance, voile de méconnaissance. La couverture qui couvre toutes les nations, c'est le mot qui est donné. Le monde entier, l'universalité du salut, invité aux noces. Il engloutit la mort pour toujours et le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de la terre l'opprobre de son peuple car l'Éternel a parlé. Voilà, la porte est ouverte et Jésus ne fait qu'accomplir cette prophétie du prophète Ésaïe. Tout simplement. Que penser de cette scandaleuse histoire, également dans l'évangile, de ce fils mécréant, qui jadis a fait la honte de la famille et qui revient sans prévenir et auquel on offre un festin. Vous avez deviné de qui je veux parler. Il arrive, et là, au lieu de ce qu'on pourrait attendre peut-être, eh bien, on est content de le recevoir. Il est mal habillé. Il est peut-être avec une mauvaise odeur dans tous les domaines, mais son père, il va pas regarder à tout ça. Il va le prendre, il va l'accueillir. Comment alors à ce moment-là ne juge-t-on pas sévèrement ce retour inédit, car selon les règles établies, et surtout la bienséance légale, c'est la condamnation et non la grâce qui aurait dû attendre le fils prodigue à son retour. Ben oui. D'où tu viens? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait de ce que je t'avais donné, de l'argent que je t'avais donné? Et l'éducation? Mais non, on lui dit pas cela. On ne lui dit absolument pas. C'est scandaleux, hein. Et Jésus a mis au cœur de ses paraboles, on l'a appelé la perle des paraboles, l'histoire du fils prodigue, pour bien montrer les sentiments de Dieu et la volonté de Dieu d'accueillir. Remarquez, vous savez, on est tous des fils et des filles prodigues, hein, quelque part. Hein. Alors ne jugeons pas trop sévèrement, parce qu'autrement on ne serait pas là ce matin. Enfin, moi, en tous les cas, ce qui me concerne, c'est ça. Voyons aussi le bon samaritain, par exemple, qui bouscule de la manière dont il va procéder, qui bouscule les représentations de la religion officielle. Monsieur le scribe, docteur de la loi et sacrificateur, parce qu'ils vont passer outre, c'est le mot qui est dit, ils vont passer tout simplement à côté, de peur pour une chose, d'être contaminé parce qu'il croyait être un homme qui était mort sur le bord de la route. Et on ne touche pas aux morts, selon la loi lévitique. Non, on n'y touche pas. Voilà. Heureusement que notre SAMU n'est pas comme ça, hein. Parce qu'il y en aurait beaucoup qui mourraient sur le bord de la route, hein. Ouais. Ils qu'avaient cru. Alors ils avaient peut-être d'autres raisons. J'ai pas le temps, je passe vite, etc. Et puis je veux pas m'occuper d'un pauvre, malheureux, blessé sur le bord de la route. Alors, on s'en va, hein. Délit de non-assistance à personne en danger. Mais pour des raisons religieuses. Pour des raisons, on pourrait dire, cultuelles. Quelque chose par là, on pourrait dire ça comme ça. Ouais. Il ne voulait pas être contaminé. Peut-être avait-il des obligations à célébrer je ne sais pas quelle autre chose dans une synagogue. Il descendait de Jérusalem à tout simplement à Jéricho. Hein. Alors il ne voulait pas. Non. Cette propreté cultuelle devait être supérieure à tout le reste. Je ne touche pas. Jésus renverse la catégorisation du pur et de l'impur, on peut le dire comme ça, c'est-à-dire du sacré et du profane. Et ça ne passe pas. Un homme comme Jésus, qui se dit Messie, alors imaginez-vous, hein, ça ne passait pas, ça ne pouvait pas passer. Il y a cette rencontre et cette délivrance d'un fou démoniaque, pardon, ce sera plus facile pour moi. Un fou démoniaque, vous savez, dans cette région de Gadara. Et vous savez ce que Jésus va en faire de cet homme? Une terreur. Non, c'est pas Jésus qui va en faire une terreur, mais c'est une terreur pour tout le pays. Il va en faire le premier missionnaire de la Nouvelle Alliance. Quand cet homme va se trouver délivré de cette légion de démons, il va se retrouver vêtu, assis au pied de Jésus et dans son bon sens, et l'homme va lui dire « Eh bien, permets que je te suive. » Et Jésus lui dira « Non, tu vas pas me suivre. Maintenant, tu vas rester là dans ton pays et raconte à tous ce que le Seigneur a fait pour toi. » Premier missionnaire. On n'aurait pas été choisir un gars qui sortait de l'asile. Hein. Alors lui, il sortait pas de l'asile, il sortait des cimetières. Mais vivant. Parce qu'en principe, dans les cimetières, on n'est pas vivant. Mais lui, il était vivant dans le cimetière. Raconte tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Et puis, nous voyons qu'à un moment donné, Jésus va se laisser toucher par une femme hémorragique dans l'évangile de Marc. Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Ça ne marche pas, ça. Hein? Ouais, ça se fait pas en tous les cas. Et qu'est-ce qui va se passer comme le lépreux? Eh bien, il a guéri. C'est que ça marche. Il y a bien quelque chose, il y a bien une volonté de Dieu derrière. Elle prie Dieu, Jésus. Là, se laisse approcher, et voilà que le miracle se produit. Autrement, elle aurait été terrassée sur place, cette femme, si la loi de vigueur et de rigueur s'était appliquée. Mais là, elle est guérie. Depuis 12 ans qu'elle est malade, vous rendez compte? La volonté de Dieu se manifeste. Sur l'instant, Jésus prend la main d'une petite fille morte. Là aussi, pour un juif, il n'y a rien à faire. Parce que c'est l'impureté d'un cadavre, comme on l'a vu précédemment, et il la ressuscite. Ça se passe dans la maison de Jaïrus. Et c'est bien expliqué également. Pourtant, Jésus connaissait, et permettez-moi d'assister avec cet adverbe, parfaitement la loi de Moïse. Jésus le connaissait, la connaissait parfaitement. Il connaissait parfaitement les lois lévitiques relatives aux interdits, aux souillures morales, religieuses. Or, nous remarquons bien qu'il retourne le processus. Et c'est ça la grande révolution de l'Évangile. C'est retourner le processus. La lettre, elle est morte, elle n'a jamais rien donné. Mais maintenant, il faut un souffle nouveau. Il faut une révolution, il faut quelque chose qui bouleverse le monde. Et pas seulement les Juifs qui se sont enferrés dans des œillères et qui ont cru trouver le salut, mais qui n'étaient pas capables. Parce que personne ne peut mettre la loi en pratique parfaitement et totalement. Alors Jésus retourne le processus. Et au lieu d'être contaminé, c'est lui qui rend pur. Écoutez bien ça, parce que je crois que c'est quand même une clé. Au lieu d'être contaminé quand il fait tout ça, c'est lui qui rend pur les autres. C'est lui qui guérit les malades. C'est lui qui ressuscite les morts. C'est lui qui est capable de changer même la nature. Dieu est au-dessus de tout ça. Et c'est pas que Dieu dément ce qu'il a annoncé. c'est qu'il fallait quelque chose de plus, de plus grand, qui dépassait la conception humaine, qui dépasse ce que nous pouvons penser. Séparer le sacré du profane sans supprimer le principe saint du pur et de l'impur. Écoutez bien, parce que je voudrais pas que vous m'épreniez en disant qu'Alain est en train de prêcher une fausse doctrine. La loi, elle est juste, elle est pure, elle est saine. D'accord? Même pas me dire, voilà, c'est... Non, non, tu te trompes, Alain, c'est pas ça. Hein. Je le répète, parce que moi, pour moi, c'est une conviction profonde. Jésus a su séparer toutes ces choses sans supprimer le principe saint et le principe divin, le principe parfait entre le pur et l'impur. Et vous savez pour ça, comment il le fait? Il en change tout simplement la source. C'est ça ce qui est important. Il va en changer la source. Ce qui est pur reste pur, ce qui est impur reste impur, mais il en change la source. Et combien à l'exemple de Jésus, il est désormais nécessaire à son Église. Et quand je parle de son Église, parce que nous avons là des représentants de l'Église dans le Nouveau Testament. Pierre, qui c'est Pierre? Sans hiérarchie, il est quand même un des apôtres principaux. On parle de Paul également. Eh bien, Paul, c'est un grand homme qui a enseigné aussi. Et ce sont, en quelque sorte, si Christ est le fondateur du Nouveau Testament et de l'Église, en tous les cas, ce sont quand même des éléments que nous pouvons écouter. Et ils ont du crédit. Et ils étaient tous les deux juifs. Ils ont été tous les deux enseignés, Pierre un peu moins que Paul, parce que Paul était un universitaire, et particulièrement en théologie. Eh bien, c'est lui qui nous le dit. Hein. Donc, il est nécessaire à l'Église d'aujourd'hui, après des siècles et des siècles, de comprendre et d'ajuster à ce changement de raisonnement qui est éminemment évangélique. Vous n'allez pas me dire que ce n'est pas évangélique ce que nous sommes en train de dire ce matin. Autrement, ça ne serait pas écrit. C'est évangélique et c'est chrétien. Pierre le comprend. Et il le comprend d'autant mieux que ses préjugés et ses réticences de juifs tombent. Nous l'avons lu, je le répète, quand il est dit ceci, cette parole, tout simplement, et... Pour la deuxième fois, la voix se fit entendre. Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme impur. Nous sommes des pierres à écouter ce que nous entendons là. Et Dieu nous dit exactement la même chose. Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. Alors on va aller un petit peu plus loin. Paul fait la même chose. Auteur principal, inspiré par le Saint-Esprit, ferait la même chose dans le Nouveau Testament. Paul, c'est Saul de Tarse, avant de se convertir. Il est un réfractaire violent. Ouais, on ne peut pas dire le contraire. C'est un opposant farouche à tout ce qui touche au plus petit iota de la lettre. Et il écrira, parce qu'il l'écrit, avec une certaine honte en se souvenant de son histoire et de son passé d'avoir été, selon eh bien, le livre des Galates, parce qu'il l'a consigné, cette expérience qu'il a fait, il l'a consigné tout simplement dans une de ses premières lettres, dans le chapitre 1er, au verset 13, il est dit ceci, « Vous savez, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma maison, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères, pour tout ce qu'on m'a inculqué, de la loi de Moïse, de tout cela. » Et puis un peu plus loin, je passe au verset 3, « Il écrira enfin, et c'est véritablement, eh bien, pour faire la démonstration qu'il avait bien compris la chose, chapitre 3, verset 28, il dira « Aujourd'hui, il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous en Jésus-Christ. » Et c'est ça ce qu'est l'Église aujourd'hui. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. D'abord Pierre, dans notre texte, ensuite Paul, que nous venons de citer, le mur de séparation a été abattu et la grâce a trouvé une voie. La voie unique qui était celle de l'Ancien Testament, c'était la loi. Maintenant, c'est la grâce, la foi qui nous amène à la grâce de Dieu. Pas par le mérite, je le répète encore, pas par nos qualités d'homme, pas parce que nous sommes un bon chrétien, non pas parce que nous sommes consacrés à venir à toutes les réunions. Excusez-moi, je voudrais pas vous choquer, mais ce n'est pas parce que nous faisons ceci et cela. Mais c'est parce que véritablement, Dieu nous a aimés avant que nous l'aimions, et qu'aujourd'hui il veut que nous fassions partie de son peuple, sans rien d'autre, sans aucune prétention de notre part, tout simplement. Et nous avons été reçus en grâce. C'est comme ça qu'on peut appeler les choses. Et tout cela, eh bien, il y a eu un passage dans les esprits, dans les cœurs et les consciences des hommes. C'est pour ça que je vous ai souligné tout à l'heure que le chapitre 10 est un chapitre dans le livre des Actes des Apôtres essentiel. Autrement, l'Église, elle aurait été exclusivement, eh bien, là, uniquement réservée aux Juifs. Et il n'y en avait pas beaucoup, hein. Pas beaucoup. Quand on voit aujourd'hui le monde juif messianique, c'est pas encore trop nombreux, hein, à travers des siècles et des siècles. Mais Dieu avait en vue autre chose. Ne regarde pas comme souillé ce que moi, Dieu, je déclare comme pur. Mais Dieu nous a appris, le dira-t-il, m'a appris à regarder aucun homme comme souillé ni impur. Et plus loin, il est dit ceci, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme ou d'acception de personnes selon les versions, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Alors il y a nécessairement une urgence à faire valoir quant à la modification de nos états de cœur et de nos états d'esprit et de nos états de conscience. Parce que si Dieu l'a fait et a fini par faire fondre la résistance et la rudesse du cœur de pierre, ça va pas bien ensemble, alors il est capable de faire fondre aussi tous nos préjugés et toutes sortes de choses. Ça ne veut pas dire n'importe comment et n'importe quoi. Ça ne veut pas dire d'avoir finalement un christianisme béat qui ne sait plus faire la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur. Non. C'est une autre notion que nous avons, la conduite et l'éclairage par le Saint-Esprit. Et voir autrui, étranger, parce qu'un étranger c'est toujours étrange, il n'est pas comme moi naturellement, c'est pour ça qu'il est étranger. De voir ceux qui sont différents, les atypiques, en tout et en tout genre, eh bien, c'est-à-dire ce que Jésus appellera le prochain, qui n'est pas et qui est différent de moi d'une manière ou d'une autre. Changer et regarder l'autre sur la base de notre rédemption commune. C'est pour ça que nous sommes en Jésus-Christ, plus ni homme, ni femme, ni ceci, ni cela, etc., etc. Et c'est ça ce qui va donner finalement l'essor au christianisme naissant. Et c'est ce qui doit donner aussi l'essor au christianisme finissant, c'est-à-dire notre temps. Parce qu'on a quand même fait du chemin, hein, depuis 20 siècles, et on s'aperçoit que les mêmes barrières sont là. Moi, je ne suis pas en train de plaider quelque chose d'une manière ou d'une autre, une mode de passage aujourd'hui, mais je suis vraiment profondément convaincu que ce que la Bible nous enseigne, c'est pour nous aujourd'hui. Oui. Vous savez, ça a été triste quand même de voir un petit peu ces... Alors, la théologie, c'est une chose, mais de pas regarder les hommes tels qu'ils sont. Et je crois que ce qui était triste, c'est qu'il y a eu tellement de conflits et de jugements entre chrétiens eux-mêmes. Je ne parle pas des chrétiens d'église, mais je parle des chrétiens, de ceux qui portent le nom chrétien. Et quelquefois, des chrétiens même évangéliques entre eux. Il y a des cultures d'église, voilà. Moi, je bénis le Seigneur d'être né dans une église où il y a cette approche de la vie de l'esprit. Puis il y a bien autre chose. Mais moi, je crois qu'il y a aussi des hommes profondément sincères. Mais même s'ils sont quelque part, eh bien, peut-être pas tout à fait comme nous, et qu'ils pensent des choses parce que leur culture d'église n'est pas la même, mais s'ils se sont repentis de leurs péchés, s'ils se sont convertis à Jésus-Christ, s'ils sont nés de nouveau, eh bien, moi, pour moi, je les appelle mes frères et mes sœurs. Je ne vivrai peut-être pas avec eux. Il y a peut-être des choses qu'ils feront de leur côté, et moi, je ferai du mien. Mais néanmoins, je crois que nous devons avoir une autre approche. Celle non pas d'une loi que nous nous sommes donnée, une loi intangible, une loi de jugement, mais une loi qui nous permet de voir que ce sont aussi des créatures, et des hommes et des femmes, et encore des frères et des sœurs, qui ont été sauvés par Jésus-Christ. Et imaginez-vous dans le ciel ce que ça va être. S'il n'y a que l'église de Saint-Nazaire et Redon, on va avoir de la place. Hein. Parce que je voudrais quand même vous dire, il y a de la place dans le ciel. Hein. C'est grand, vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais c'est grand, au-delà de ce que nous pouvons concevoir. Eh oui. Je termine tout simplement et je voudrais simplement citer cette parole. Paul le dira, ouvrez vos cœurs, élargissez vos cœurs, c'est important. Non pas d'une manière avec une conception humaine, une conception tout à fait charnelle, mais avec la vue de l'Esprit. Et dans 2 Éphésiens 2, il est donné cette belle parole, mais maintenant Jésus-Christ, en Jésus-Christ, c'est lui qui est le lien. Hein. Vous qui étiez jadis éloignés par notre ignorance, notre incrédulité, parce que nous sommes des païens, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, c'est bien marqué, c'est lui, hein. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et il a renversé, la parole que je voulais vous dire, le mur de séparation. Vous savez que notre brave Pierre, là, quand il était sur le toit en train de prier, comme nous l'avons lu tout à l'heure, le mur lui est tombé sur la tête, hein. On peut pas dire autrement, hein. Là, il a eu la révélation de sa vie, hein. Alors, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, c'est ce que nous disions. Ce carcan, ce labyrinthe de loi lévitique, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié, c'est-à-dire toute cette ce monde de jugement, de critique, parce qu'il n'est pas comme moi, c'est ça l'inimitié, en quelque sorte, vis-à-vis de l'autre. Il est venu annoncer la paix à vous qui êtes au loin, et la paix à ceux qui sont auprès, car par lui, les uns et les autres, nous avons tous accès auprès du Père, dans un même esprit. Et tout est là dans la phrase, par un même esprit. On ne nous demande pas d'être des gens religieux avec une mentalité religieuse, on nous demande de vivre dans l'esprit d'une manière spirituelle. Et là, ça nous ouvre toutes les voies. Et quand on est dans cet esprit-là, mes frères et mes sœurs de loin, mes frères et mes sœurs de près, c'est-à-dire vous, eh bien Dieu nous apprend à nous aimer les uns les autres. Même si nous n'avons pas le même caractère, même si nous avons des options différentes, même si nous pensons peut-être différemment, mais nous sommes pas seulement à nous supporter, parce que là c'est quelque chose, mais nous sommes, et Jésus nous a dit, non seulement de nous supporter, parce que ça c'est un moindre, mais de nous aimer les uns les autres, tels que nous sommes. Eh oui, et on est bien différents les uns les autres. Hein. Eh oui, quelquefois on se comprend pas. Mais néanmoins, le Seigneur va pas nous donner des explications de ceci et cela, il va nous donner cette injonction, aimez-vous les uns les autres. Parce que dans le ciel, ça va être dur, hein. Avec ce qu'on aime pas, hein. Parce que non seulement le ciel est grand, mais ça va être long. L'éternité, imaginez-vous. Bon, j'ai dit que je finissais. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce que le contraire du péché? Qu'est-ce qu'est le contraire du mal, de la souillure et de toutes les pollutions qui peuvent exister, comme nous le voyons dans la loi de Moïse? Qu'est-ce qu'est le contraire? Alors on répondra si nous sommes moralistes ou si nous avons une morale religieuse. C'est la vertu. On dira, c'est la vertu, c'est normal. Voilà. Eh bien, vous savez ce que la Bible répond, et pas la Bible. Le Nouveau Testament nous répond, ce n'est pas la vertu, c'est la grâce. Moi, pour moi, ça m'a fait flash, hein. C'est la grâce. Parce que qui est juste? Qui est pur? Qui est parfait? Si c'était la vertu, ce serait l'effort humain. Mais ce n'est pas la vertu, c'est la grâce, frères et sœurs. Souvenez-vous-en. Et souvenez-vous-en toujours. Parce que simplement cette petite définition peut changer complètement et totalement notre notion de vivre notre foi et de vivre notre vie chrétienne. Qui c'est qui nous a sauvés? C'est Jésus ou je me suis sauvé moi-même? Est-ce que je me suis sauvé par la loi? Est-ce que je me suis sauvé par les ordonnances que j'ai observées et que j'ai mis tout mon cœur et la sincérité et que j'ai mis toute ma ferveur et mon ardeur? C'est pas ça ce qui me sauve. Ça me sauvera jamais. Autrement, Jésus ne serait jamais venu. Il n'y aurait pas eu le Nouveau Testament. C'est que le Nouveau Testament et Jésus est venu pour montrer finalement la faillite complète, totale et absolue de la loi. La loi nous enseigne quoi? C'est un pédagogue. C'est un instituteur. C'est un maître d'école, c'est un professeur pour nous amener finalement à cette autre dimension, en nous donnant, eh bien, les éléments et les principes basiques. Et après, il faut rentrer dans une autre dimension. Avant d'aller à l'université, il faut passer par la maternelle. C'est rare ceux qui y arrivent sans être passés par la maternelle, hein. Alors, je le répète, le contraire du péché, du mal, de la souillure et d'autres pollutions n'est pas en rien la vertu, mais la morale, ni la morale, mais c'est bien simplement la grâce. Et Paul le dira, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Vu sous l'angle de la loi, là où le péché a abondé, le jugement et la condamnation a surabondé. Mais c'est le contraire. Un Paul qui nous dit ça, qui lui était prêt à faire feu de tubois pour faire respecter de force, de gré ou de force, la loi, eh bien il l'écrit. Je termine. Plus les mailles du filet de nos efforts religieux, de nos observances et dévotions sont tissées fins, le filet. Plus les mailles sont fines, eh bien plus les trous sont grands et nombreux, parce qu'on a tellement serré les choses. Ah oui, on veut rien laisser passer. Dans l'esprit, on veut rien laisser passer. Ben, le jour où il y a des trous, ça fait l'exemple du fils prodigue, hein. Des trous béants. Hein. Telle est la loi et son système qui en découle, que l'on appelle le légalisme, tout simplement. Or, la loi ne peut encourager à l'obéissance. C'est curieux, hein. Parce que la cause, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est notre nature pécheresse. Vous pouvez bien vous mettre en confrontation avec la loi, vous n'y arriverez pas. Si vous arrivez à vivre sans commandement, ben vous verrez que le 101e, vous y passerez. Hein. Parce qu'on est comme ça, tout simplement. Mais la loi a plutôt mis en évidence la désobéissance. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul qui l'écrit. Tous les hommes ont été renfermés dans la désobéissance pour montrer finalement eh bien, que la loi a raison. Mais nous. Et qu'il fallait, au-delà de la loi, eh bien, il fallait une autre dimension. Parce que la loi s'est contentée d'indiquer la maladie, c'est-à-dire elle a fait le diagnostic, et la grâce a apporté la guérison. Et moi, je suis content de vous le dire ce matin. La loi, elle a apporté la maladie, c'est-à-dire elle a apporté le diagnostic de la maladie, l'homme est malade, mais la grâce, elle a apporté la guérison. Et quand Jésus touche, comme il le fait, quand il parle, quand il fait, tout ce qu'il a fait, c'était pour apporter la guérison aux hommes. Tout simplement. Et s'il y a guérison, il y a guérison de nos préjugés de chrétiens. Nos préjugés, comme les juifs avaient des préjugés, préjugés moraux, préjugés religieux, préjugés sectaires, et qui a mis notre conscience en prison, très souvent. D'où cette parole, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé, que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous vivons dans un monde tellement étrange. Nous sommes imprégnés tous les jours de toute cette législation qui nous environne, législation des hommes que l'on appelle, c'est vrai, eh bien, la charte des droits de l'homme, mais où est la charte des droits de Dieu dans tout ça? Nous savons, Seigneur, que nous sommes enserrés, Seigneur, dans une société qui fonctionne et elle ne pourrait pas fonctionner elle ne pourrait pas fonctionner autrement, parce qu'il faut qu'il y ait véritablement eh bien, des règles. Mais une chose qui est certaine, c'est que tu ne nous as pas demandé d'avoir un esprit en captivité dans des règles qui suppriment l'amour, qui suppriment la chaleur, qui suppriment la relation, qui éteint en effet, Père éternel, tout ce qu'il peut y avoir de grand et de beau dans le sentiment, en effet, de nos cœurs. Mais tu nous as appelés, Seigneur, à être animés de ton esprit. Et nous savons, Seigneur, que il y a la lettre de la loi et il y a l'esprit de la loi qui nous amène à la foi et à la grâce de Dieu. Seigneur, je te demande de nous visiter les uns et les autres. Je crois que notre christianisme du 21e siècle a urgemment besoin de découvrir, Père éternel, les beautés, la grâce, la lumière du Nouveau Testament à travers la personne de Jésus. Merci, Seigneur. Parce qu'en effet, Père éternel, tu es mort pour chacun d'entre nous. Mais tu es mort, condamné, pour avoir été celui qui pouvait se permettre, en effet, de faire ce qui nous vaut aujourd'hui la liberté. Lorsque tu as touché, lorsque tu as parlé, lorsque tu as été, ce que tu as été en finalement, eh bien, à chaque instant, c'est que les hommes ne pouvaient pas franchir cette barrière, mais toi tu l'as franchi et tu es mort à cause de ça, pour que nous ne soyons plus prisonniers de ces choses, mais que nous puissions rentrer dans la véritable liberté. Alors visite ton peuple, bénis-nous Seigneur ce matin, et donne-nous de comprendre qu'en effet Seigneur, la chose la plus excellente qui puisse arriver dans notre monde, et qui puisse véritablement recouvrir l'Église, c'est la grâce de Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce, merci d'être là ce matin. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui agit au fond de nos vies, de nos cœurs, parce que nous savons que cette loi-là, s'il y a le mot loi, eh bien c'est une loi d'amour, Merci mon Dieu, merci Jésus. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.